Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de CryptoMatrix. Nouvelle vidéo, mais pas seulement, c'est aussi un nouveau format qu'on va expérimenter ensemble aujourd'hui, puisque comme vous le savez, à partir de maintenant, vous allez avoir régulièrement des nouveaux intervenants qui vont passer sur cette chaîne YouTube, et j'en fais partie pour vous parler de crypto. Et d'ailleurs, je vais commencer par me présenter rapidement. Peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà vu quelque part, notamment s'ils ont suivi Cryptost ces dernières années, puisque effectivement, depuis 2021, j'ai publié chaque semaine pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube de Cryptost et j'ai arrêté l'année dernière pour lancer Oak Research, qui est la plateforme que vous avez actuellement sous les yeux et qui est une plateforme de recherche et d'analyse assez spécialisée sur les cryptos et assez approfondie. Et justement, quand CryptoMatrix m'a proposé de reprendre une partie des contenus qu'on publie sur Oak Research pour en faire une vidéo sur sa chaîne YouTube, je me suis dit que c'était une excellente idée et que c'était potentiellement un format qui pouvait vous intéresser. Et d'ailleurs, le format de ces vidéos, il va être assez simple. On va analyser des projets qui, d'après nous, ont un vrai potentiel de croissance, croissance en termes de métriques financières, d'adoption, d'activité. Bref, une croissance qui pourrait se refléter directement sur la valorisation de ces projets sur le marché, avec l'ambition d'aller chercher donc des performances intéressantes. Et tout ça, c'est parti d'un constat de base qu'on s'est fait il y a un petit peu plus d'un an et demi quand on a lancé Oak Research, et qui est un constat, je pense, qui vous parle directement si vous avez investi en crypto, qui est que depuis le début de ce cycle haussier, il est devenu très compliqué d'investir sur les cryptos, et notamment si on se diversifie au-delà de Bitcoin, tout simplement parce que Bitcoin a écrasé la concurrence, il a laissé que très peu de place aux altcoins, et donc c'est devenu très compliqué de faire des vraies performances en investissant sur les altcoins. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut simplement dire qu'il faut changer sa grille de lecture, que le marché s'est professionnalisé et que nous aussi, en tant qu'analystes, on doit se professionnaliser. Et c'est cette mission qu'on s'est donnée avec Oak Research de proposer des analyses plus approfondies, plus fondamentales, plus financières, pour justement détecter les projets les plus intéressants. C'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année 2025. On a beaucoup parlé de Maple, qui est une des plus belles réussites de la DeFi en 2025. On a beaucoup parlé de Etena également, de Euler. Et puis, bien entendu, vous en doutez, de Hyperliquid, qui va être le sujet de cette vidéo et qui est le protocole le plus performant depuis le début de ce cycle haussier. Bref, c'est un nouveau format qu'on va expérimenter ensemble aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous faire un maximum de retours dans les commentaires, surtout qu'on envisage de le renouveler à partir de la rentrée tous les mois. Donc, si ça vous plaît, bah dites-le nous si vous avez envie qu'on lance ce nouveau format avec CryptoMatrix. Et puis si vous voulez qu'on l'améliore, bah faites-nous vos retours dans les commentaires. On va évidemment lire tout ça. Bref, cette introduction, elle était un tout petit peu longue, j'en suis désolé, mais c'était nécessaire pour poser les bases. Et on va enfin passer à ce qui vous intéresse réellement, à savoir cette fameuse vidéo au sujet de Hyperliquid. Et pour cette vidéo, je me suis dit que c'était pas forcément intéressant de vous faire un truc classique où je vais vous expliquer qu'est-ce que Hyperliquid, pourquoi c'est intéressant, comment ça fonctionne. Tout simplement parce que ça, je pense que vous l'avez déjà vu un petit peu partout. Ça a été fait beaucoup sur YouTube ou dans des articles de médias et ça a été déjà très bien fait. Et donc je me suis dit que j'allais reprendre cet article que j'ai publié il y a un petit peu plus d'un mois sur Oak Research, où je me suis posé la question de quelle était la vision réelle de l'équipe de Hyperliquid. Et donc je me suis beaucoup documenté, j'ai discuté avec des gens qui gravitent autour de cet écosystème, avec des fondateurs des plus gros projets de l'écosystème Hyperliquid et avec des membres de l'équipe. Et c'est cette analyse qui en est ressortie que j'ai appelée la vision du AWS de la liquidité. Alors évidemment, je vais vous l'expliquer très clairement, vous inquiétez pas. On va se faire une petite introduction quand même. Hyperliquid, c'est donc la plateforme que vous avez actuellement sous les yeux. C'est une plateforme de trading décentralisée qui a été lancée, pardon, en fin d'année 2022, suite à la faillite de FTX, avec une idée qui était très claire. C'était de proposer une plateforme qui avait des performances aussi intéressantes que celles de FTX ou bien que celles de Binance, mais qui pouvait profiter quand même de la transparence et de la décentralisation de la blockchain. C'était vraiment ce pari-là qui était fait. Alors évidemment, il y a des innovations techniques qui étaient intéressantes derrière que je ne vais pas vous mentionner et que vous connaissez peut-être déjà, bah, notamment ce qu'on a actuellement sous les yeux d'ailleurs, ce fameux carnet d'ordre on-chain. C'est la première plateforme qui a réussi à mettre en place un carnet d'ordre complètement sur la blockchain et qui fonctionne. Et c'est aussi ça qui explique d'ailleurs le succès de Hyperliquid. Mais bon. Le résultat, c'est quand même que leur pari de base a été de proposer une plateforme décentralisée qui était capable de concurrencer un Binance. Et donc, si on regarde un petit peu les métriques récentes, alors bon, ce tweet, on l'a posté il y a un petit peu plus d'un mois, donc les chiffres ne sont pas forcément totalement vrais, mais depuis le début de l'année, on parle de 400 millions de dollars de revenus générés. Annualisé, si on prend les chiffres du mois de juillet, on est sur 1,2 milliard de dollars, c'est énorme. On parle de 73% de part de marché sur les DEX PERP. Actuellement, je crois que c'est 84% de parts de marché. Donc, c'est sur les plateformes de trading décentralisées. Et puis, un open interest record à 15 milliards de dollars. L'open interest, c'est la somme de tous les ordres qui sont placés sur la plateforme. Et si on prend 15 milliards de dollars, c'est au-delà de Bitget, c'est au-delà de OKX. Alors, c'est évidemment en dessous de Bybit et de Binance, mais ça reste quand même quelque chose d'énorme. Et ça montre que le pari de Hyperliquid, il est réussi. Ils ont réussi à devenir les premiers, les leaders dans leur secteur. Et quand on regarde leur part de marché par rapport aux plateformes centralisées, c'est 8,3%. C'est que le pari d'aller concurrencer un Binance, il est réussi. Mais la grande question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire après? Où est-ce qu'ils veulent aller? Parce qu'effectivement, Hyperliquid est déjà leader dans le secteur des plateformes de trading décentralisées. Le seul risque pour eux maintenant, c'est qu'il y ait des nouveaux acteurs qui entrent, qui viennent les concurrencer et qui viennent même les remplacer. Alors oui, ils peuvent encore essayer d'aller grappiller quelques points, quelques parts de marché à Binance, à Bybit, etc. Mais le potentiel n'est pas énorme. Et donc, quel est vraiment leur objectif, leur ambition pour que Hyperliquid reste un projet majeur sur le long terme? Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est la question que je me suis posée. Et en me documentant énormément, en regardant un peu les nouveautés techniques et surtout ce qui intéresse les builders dans cet écosystème, je me suis rendu compte que, en fait, le véritable succès d'Hyperliquid, c'était pas seulement la qualité du produit, c'était pas seulement cette stratégie de développement assez nouvelle, c'était pas non plus le fait qu'ils avaient fait un airdrop énorme, qui est le plus gros airdrop de l'histoire des cryptos. Pour moi, le véritable succès de Hyperliquid, c'est d'avoir su construire la plateforme avec la liquidité la plus profonde du marché. Et pour comprendre ça, on est obligé de faire une parenthèse sur la finance décentralisée. Et comme vous le savez, en finance décentralisée, la liquidité, c'est l'élément fondamental. Tous les projets veulent avoir le plus d'utilisateurs et donc le plus de liquidité sur l'application, sur leur plateforme, sur leur blockchain, peu importe. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de projets qui émergent et pour autant, on n'a pas plus de liquidité. On en a un peu plus, mais pas énormément plus. Et donc, tous ces projets, en fait, ils se battent tous pour la même liquidité. Et ça crée une sorte de cycle qui se répète inlassablement, et je pense que vous l'avez observé par vous-même, c'est qu'on a des protocoles qui naissent, qui vont attirer des liquidités, soit avec des campagnes d'airdrop, soit avec des incentives énormes, soit avec des gros pourcentages de rendement qui vont diluer leurs tokens. Et puis, finalement, quand ce robinet il commence à se tarir, c'est-à-dire que bah forcément ces incentives elles ne peuvent pas durer indéfiniment, et bien les utilisateurs immigrent vers une nouvelle opportunité. Et des projets qui parviennent à retenir la liquidité et retenir les utilisateurs, il n'y en a pas beaucoup, et Hyperliquid fait partie de ces projets. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, le point décisif d'Hyperliquid, c'est d'avoir bâti une infrastructure qui est capable de retenir cette liquidité. Et donc pour moi, la vraie thèse de Hyperliquid, c'est qu'ils veulent transformer cette liquidité et cette infrastructure qu'ils ont réussi à développer en une ressource qui serait accessible à tous. Et que n'importe qui, n'importe quel développeur d'application décentralisée peut utiliser pour bâtir, pour distribuer et pour monétiser ses applications. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée de cette vision-là, c'est, comme je vous le disais, toutes les discussions, etc. Mais c'est aussi ce tweet que j'ai mis ici, qui date d'il y a un peu plus d'un an, qui a été publié par le fondateur de Hyperliquid, qui n'a pas fait tant de bruit que ça, alors que pourtant, il y explique vraiment tout ce qu'il faut retenir de la vision de Hyperliquid. Donc le fait que Hyperliquid veut être le AWS de la liquidité. Pour vous l'expliquer très rapidement, AWS c'est Amazon Web Service et en fait ils ont un peu changé la vie de toutes les personnes qui avaient besoin d'avoir un site internet pour leur entreprise, pour leur business ou même juste tout simplement pour eux. C'est qu'en fait à l'époque c'était compliqué d'héberger son site internet parce qu'il fallait avoir des serveurs à la maison et ils sont arrivés avec un service de cloud où en quelques clics on pouvait héberger son site internet et donc on n'avait plus besoin de s'embêter avec toute la complexité technique, on pouvait juste en tant qu'entreprise se concentrer sur le développement de son produit, sur l'acquisition d'utilisateurs et donc sur le fait de faire de l'argent. Pour Hyperliquid, c'est exactement le même modèle. Quand on est un développeur aujourd'hui et qu'on veut lancer une application décentralisée, bah, il faut construire toute l'infrastructure, il faut attirer les utilisateurs, il faut attirer la liquidité et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est compliqué. Ben désormais, Hyperliquid vous propose de faire abstraction de cette complexité et d'offrir donc à tous les développeurs une infrastructure qui est performante, qui est liquide et qu'ils peuvent utiliser pour construire leurs produits, pour innover, pour acquérir des utilisateurs et donc pour derrière se monétiser et gagner de l'argent. En fait, je l'ai compris aussi parce qu'ils ont développé des nouveautés techniques que je vous présenterai justement dans la suite de cette vidéo, que sont les builder code, core writer et HIP3. Donc ces trois piliers techniques de Hyperliquid qui justement vont concrétiser cette vision du AWS de la liquidité. Et je vais vous les présenter chacun un par un. Et on va commencer avec le premier pilier dont je voulais vous parler dans cette vidéo, et c'est les builder code. Alors peut-être que c'est un concept que vous connaissez déjà, ou en tout cas vous en avez déjà entendu parler, parce que récemment, au début du mois de juillet, Phantom, qui est le wallet le plus utilisé sur Solana, a annoncé qu'il proposait désormais à leurs utilisateurs de trader directement des cryptos depuis leur interface, donc avec effet de levier sur des contrats perpétuels, grâce à Hyperliquid. Et en fait, tout simplement, en arrière-plan, c'est les builder codes qui sont utilisés. Et justement, d'ailleurs, Phantom a un petit peu mis en lumière ce concept des builder codes parce que, à l'époque, quand ça a été introduit en octobre 2024, c'était absolument pas compris par la communauté. Tout le monde se posait la question de pourquoi est-ce que Hyperliquid faisait ça, alors qu'en réalité, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Les builder codes, ce sont des identifiants uniques qui permettent à n'importe quel développeur de connecter leur front-end, donc leur application, au back-end de Hyperliquid, donc à l'infrastructure de Hyperliquid. En fait, si vous voulez, une application comme Phantom, par exemple, dispose de ses utilisateurs. Donc, ils vont générer de l'activité, un utilisateur va passer un trade via Phantom, ce trade va être envoyé au builder code, et donc cet identifiant, finalement, va se connecter directement à l'infrastructure de Hyperliquid, qu'on appelle HyperCore, c'est voilà, la couche qui est en dessous la plateforme de trading que vous connaissez. Et donc cet ordre, via cet identifiant-là, il va être exécuté sur Hyperliquid, et l'utilisateur va donc pouvoir trader grâce à ça. Et tout ça, ça va forcément générer des frais qui vont aller vers Hyperliquid, mais qui vont être aussi en partie rebalancés à l'application. Et c'est ça qui est intéressant pour eux, parce qu'ils disposent d'utilisateurs, ils leur proposent une nouvelle fonctionnalité qui ne coûte rien pour eux, et ils peuvent monétiser cette nouvelle activité assez simplement. Et tout ça, c'est gagnant-gagnant finalement, parce que pour Hyperliquid, ça leur permet de développer leur activité, d'avoir plus d'utilisateurs sans forcément mettre de l'argent pour payer des KOL, pour payer des médias, pour parler d'eux, ou alors avec des campagnes, comme je le disais tout à l'heure, qui va peut-être diluer leur token, etc., pour essayer d'attirer du monde. Ça se fait par d'autres vecteurs. Donc pour eux, c'est gagnant, ils génèrent de l'argent grâce à ça. Et puis pour les développeurs, c'est super simple, ils n'ont pas à se prendre la tête à devoir construire toute l'infrastructure, le carnet d'ordre, etc. Pour Phantom, par exemple, on rajoute des nouvelles fonctionnalités, on rend le wallet encore plus attractif, et avec ça, on gagne de l'argent. Et ça renforce cette vision dont je vous parlais tout à l'heure, qui est que Hyperliquid ne souhaite pas devenir une super app de trading et focaliser uniquement sur leur interface et eux-mêmes développer tous les produits. En réalité, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre en avant leur infrastructure qui fonctionne très bien et leur liquidité qui est très profonde, et permettre aux autres de construire dessus, de ramener des utilisateurs et de monétiser ses utilisateurs. En fait, finalement, ils délèguent le développement du produit et l'acquisition des utilisateurs. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir avec les builder code. C'est vraiment la force de ce nouveau pilier qui a été mis en place par Hyperliquid, pardon, il y a quelques mois, et qui s'est vraiment développé ces dernières semaines depuis que Phantom l'a annoncé. Et d'ailleurs, Phantom n'était pas la seule application à le faire, bien entendu. Il y en a une qui s'appelle PVP Trade, qui l'a lancé dès octobre dernier, parce qu'ils ont eux-mêmes tout de suite compris pourquoi c'était intéressant. Mais en tout cas, Phantom, en l'espace de un mois et demi, ils ont généré plus de 3 millions de dollars de revenus juste grâce à ça. Bon, maintenant, on va passer au deuxième pilier dont je voulais vous parler, et c'est Core Writer. Alors, je vais l'appeler CW d'ailleurs, parce que j'ai un accent anglais qui est vraiment pas exceptionnel et j'ai pas envie de me répéter pendant toute la vidéo. Et pour comprendre vraiment l'importance de CW, il faut comprendre comment fonctionne l'architecture de Hyperliquid. Vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué. En fait, Hyperliquid, c'est aussi et surtout une blockchain. C'est ça qui leur a permis d'être une application qui est aussi performante. C'est parce qu'ils ont construit leur propre blockchain qui repose sur un consensus qui s'appelle HyperBFT, qui a des capacités techniques qui sont très élevées et une latence qui est très faible. Et c'est ça qui permet de faire du trading à haute fréquence. Sur cette blockchain, on a HyperCore, dont on a parlé tout à l'heure. HyperCore, c'est la couche qui permet de supporter cette application que vous avez juste ici. Tout ce que vous faites quand vous utilisez Hyperliquid, que ce soit du trading ou les vaults ou d'ailleurs le staking également, tout ça, ça se passe sur HyperCore. Et puis il y a une deuxième couche dont vous avez aussi probablement entendu parler qui s'appelle HyperEVM. Cette couche, elle est conçue pour accueillir des smart contracts et donc des applications décentralisées, comme des applications de lending ou des plateformes décentralisées, bref, peu importe, c'est une couche dédiée à accueillir de la finance décentralisée. Sauf que quand elle s'est lancée en février dernier, elle était assez incomplète, elle était très basique, et c'est pour ça que tout le monde s'est dit, bon, à quoi ça sert finalement, on est sur une énième layer 2, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller sur HyperEVM. Alors que, en réalité, c'est tout simplement parce que tout n'avait pas encore été réellement implémenté, et notamment les fameux CW qui permettent à toutes les applications qui sont développées sur HyperEVM d'interagir directement avec HyperCore. Et c'est ça qui est extrêmement important. Ça veut dire que, grosso modo, vous avez une application qui est développée sur HyperEVM, comme par exemple HyperLend, disons, qui est une plateforme de lending un petit peu similaire à AAV, eh bien, elle a la possibilité d'aller directement passer des ordres dans le PERPS, d'aller échanger des actifs sur le spot, d'aller poser ou enlever des actifs d'un vault, et même d'interagir, s'ils le veulent, avec les comptes de staking des utilisateurs. Et ça, ça ouvre énormément de possibilités, comme par exemple Kinetic, qui est une application de liquid staking. Lorsque vous allez déposer des HYPE sur Kinetic qui repose sur HyperEVM, eux, ils vont pouvoir directement placer ces HYPE en staking et même changer les validateurs en fonction des performances des validateurs. Tout ça nativement grâce à cette connexion avec le fameux CW dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Bah, tout simplement parce que ça donne tout son sens finalement à HyperEVM. Et c'est toujours dans cette même idée que Hyperliquid dispose d'une infrastructure, dispose d'une liquidité qui est intéressante, et ce sont d'autres personnes qui vont pouvoir l'utiliser pour développer cette fois-ci non plus des services autour des contrats perpétuels, mais là vraiment des nouvelles fonctionnalités extrêmement intéressantes de finances décentralisées, tout en reposant nativement grâce au CW, nativement sur cette liquidité et sur cette infrastructure. Et on en arrive donc au troisième pilier dont je voulais vous parler dans cette vidéo, qui est HIP3. Alors HIP, ça veut dire Hyperliquid Improvement Proposal, donc des propositions d'amélioration du protocole. Il y en a eu deux avant, hein, comme vous en doutez. HIP1, c'était l'arrivée des marchés spot sur Hyperliquid. Et HIP2, c'était Hyperliquidity, qui est en fait une sorte de market making pour le marché spot, grosso modo. Et HIP3, c'est donc la prochaine proposition d'amélioration qui devrait arriver d'ici quelques semaines. On n'a pas de date exacte encore. C'est quelque chose dont trop peu de personnes parlent, même au sein de ceux qui gravitent vraiment dans l'écosystème Hyperliquid, parce que c'est assez technique, c'est assez mal compris, et c'est un peu comme les builder codes au départ. Il y a encore beaucoup de personnes qui se posent la question de pourquoi est-ce que Hyperliquid fait ça, ou ont du mal à le comprendre, alors que pour moi c'est vraiment parmi les trois piliers dont je voulais vous parler celui qui est le plus important dans cette vision, cette thèse de Hyperliquid. Concrètement, qu'est-ce que c'est HIP3? Eh bien, c'est l'idée que auparavant, tous les nouveaux marchés, tous les nouveaux actifs qui étaient listés sur Hyperliquid, c'était l'équipe qui décidait de leur cotation. Désormais, avec HIP3, l'idée c'est que on ouvre à n'importe qui. Alors bon, n'importe qui, je m'emballe un petit peu parce que vous allez voir, il y a quand même des conditions, mais théoriquement, on ouvre à n'importe quelle personne qui a les capacités nécessaires la possibilité de déployer leur propre marché sur Hyperliquid. Comment ça marche concrètement? Parce que dit comme ça, c'est pas très clair. On vous a fait encore une fois un graphe. Les deployers, ce sont ces personnes qui justement vont vouloir déployer des nouveaux marchés. Donc ça peut être des DAO, comme on le dit, des protocoles, des market makers, des ventures, bref, peu importe, n'importe qui remplit les critères nécessaires pour pouvoir déployer ces nouveaux marchés. Quels sont ces critères? Le premier d'entre eux, il est quand même assez important, c'est qu'il faut avoir stake 1 million de HYPE. Au prix actuel, ça représente 41 millions de dollars, donc c'est quand même une sacrée barrière à l'entrée. Et la raison, elle est assez simple, c'est que tout simplement, quand vous stakez ces 1 million de HYPE pour pouvoir accéder à HIP3, en réalité, vous risquez qu'il soit slash, c'est-à-dire qu'on vous prenne ces 1 million de HYPE si vous êtes un acteur malveillant. Et en fait, ça évite tout simplement que y a des acteurs malveillants qui viennent déployer des nouveaux marchés sur Hyperliquid, qui mettent à risque l'ensemble de l'infrastructure et donc l'ensemble des utilisateurs. Bref, c'est simplement une caution de sécurité. Donc, une fois que ces 1 million de HYPE sont stakés, les deployers sont éligibles pour participer à une enchère qui se déroule toutes les 31 heures pour pouvoir obtenir le droit de déployer un nouveau marché sur Hyperliquid et donc sur HyperCore, qui est donc la couche sous Hyperliquid. Une fois qu'ils ont obtenu ce droit, eh bien, ils peuvent déployer leur marché dessus, et donc ce marché est disponible. Alors, on parle de marché vraiment très vaste. En réalité, ça n'est pas forcément que lister un nouveau token. En fait, ça peut être lister n'importe quel marché. On peut parler de marché action, matières premières, marché de prédiction même, du forex, bref. Et donc forcément, ces marchés, bah, ils attirent des utilisateurs, ils attirent de l'activité. Il y a un pourcentage de ces frais qui va être redirigé à Hyperliquid. Et évidemment, lui, bah, il récupère une partie des frais aussi parce que c'est lui qui entretient le marché, etc. Donc, il doit quand même se payer là-dessus. Bon, je pense que vous avez compris à peu près comment ça fonctionne techniquement et je pense aussi que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je considère que HIP-3 c'est aussi important pour l'avenir de Hyperliquid. En fait, c'est un système qui est complètement win-win. Pour les deployers, ils n'ont pas à s'embêter à construire l'infrastructure et à attirer les liquidités. Elle est déjà disponible, elle est déjà là et en plus, bah, c'est potentiellement l'infrastructure la plus performante du marché et la liquidité la plus profonde du marché. Donc c'est parfait pour eux, ils peuvent facilement déployer leur marché. Et pour Hyperliquid, bah, c'est génial aussi parce que s'ils avaient voulu eux-mêmes déployer ces marchés, ils auraient pris énormément de temps à le faire, ça leur aurait coûté beaucoup d'argent et puis ils n'avaient pas forcément les compétences nécessaires en interne pour le faire. Et donc désormais, ils ont des gens qui le font pour eux. Et pour eux, bah en fait, c'est juste des nouveaux utilisateurs, des nouveaux marchés et des nouveaux revenus supplémentaires qui sont extrêmement importants parce que, on le verra tout à l'heure par la suite, mais les revenus de Hyperliquid sont directement liés aussi à la performance du token sur le marché. Vous l'avez compris, HIP-3, c'est vraiment cette dernière brique qui va faire passer Hyperliquid dans cette vision du AWS de la liquidité, cette vision dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et si vous voulez encore approfondir à ce sujet, je vous invite vraiment à aller lire l'analyse au complet parce que on va beaucoup plus en profondeur et notamment je vous réexplique toute cette comparaison avec AWS. J'explique aussi pourquoi c'est aussi important d'avoir autant de liquidités pour une plateforme comme Hyperliquid, l'impact aussi, les perspectives pour HyperEVM et toutes les applications de l'écosystème. Et puis je parle aussi de ça, qui est très intéressant, c'est les revenus et le buyback, pardon, de Hype. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que je vous l'avais promis au début de la vidéo, le format, c'était parler de projets qui ont un potentiel de croissance, mais pas seulement. Parler aussi de projets dont la croissance pourrait impacter directement la valorisation. Et pour Hyperliquid, je pense que ça se joue beaucoup sur les revenus et sur le buyback. D'abord, il faut savoir que Hyperliquid, c'est l'un des projets les plus rentables de l'industrie. Il génère à peu près 1 milliard de dollars de revenus annualisés. Et ça les place à la troisième position derrière Circle et derrière Tether. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 100% de ces frais est utilisé pour être alloué à deux entités. La première entité, c'est le HLP, le Hyperliquidity Provider, qui est un vault communautaire qui vous permet en tant qu'utilisateur de participer au market making sur Hyperliquid. Ça vous génère un petit rendement de 14%, donc c'est intéressant. Mais eux, ils prennent que 8% des frais. 92% des frais générés par Hyperliquid, donc des revenus, va dans un autre fonds qui s'appelle le fonds d'assistance, qui lui est un coussin de sécurité pour éviter que, en cas de problème, on ait trop de pertes pour les utilisateurs. En fait, s'il y a un souci sur Hyperliquid, on va piocher dedans et on rembourse les utilisateurs. Et l'avantage de ce fonds d'assistance, c'est qu'il rachète 100% de Hype avec l'argent qu'on lui donne. Tous les USDC qui sont déposés dedans servent à racheter du Hype. Et donc, ça crée en fait une pression acheteuse qui est énorme parce que Hyperliquid génère par moment 3, 4 millions de dollars, voire 5 millions de dollars de revenus par jour. Eh bien, c'est 3, 4, 5 millions de dollars de rachat de hype par jour. C'est une pression haussière énorme. Donc ça, forcément, ça joue aussi sur le price action de hype et ça joue aussi sur sa valorisation. Et depuis tout à l'heure, je vous parle des builder code qui ramènent de l'argent à Phantom et donc qui ramènent de l'argent à Hyperliquid. Je vous parle de HIP-3 qui va permettre de créer de nouveaux marchés, qui va générer des nouveaux revenus pour Hyperliquid. On peut imaginer qu'avec tout ça, les revenus d'Hyperliquid vont continuer de croître. Si les revenus continuent de croître, d'abord, le modèle de valorisation de Hyperliquid, il va croître également. Parce que, de manière assez générale, quand on essaye de faire une estimation de la valorisation d'un projet en finance, on prend ses revenus et on applique un multiplicateur par rapport à ses revenus pour estimer sa valorisation. Et à partir de là, si les revenus d'Hyperliquid augmentent, théoriquement, sa valorisation estimée, elle devrait augmenter aussi. Mais si en plus on a un buyback de hype qui est de plus en plus important, ben on aura une pression acheteuse qui sera de plus en plus importante. Et ça aussi, ça va renforcer le fait que Hyperliquid va tendre vers son modèle de valorisation estimée. Bref, on va s'arrêter là dans la vidéo parce que j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'elle va être un peu longue, elle est aussi un peu technique. J'espère que j'aurai quand même réussi à vous faire passer ces informations que j'estime comme étant vraiment ultra intéressante. J'espère que vous aussi, ça vous aura intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire dans les commentaires. Encore une fois, je le rappelle, c'est un format expérimental. Donc, on peut encore s'améliorer, évidemment. Donc, dites-le nous. Et puis, dites-nous aussi si ce genre de format vous plaît et que vous avez envie qu'on revienne avec l'équipe de HawkResearch sur la chaîne YouTube de CryptoMatrix pour d'autres vidéos de ce genre. On le fera avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis, je l'espère, à très vite sur cette chaîne YouTube.